On commence ce magazine avec la revue de presse des Hebdos. Salut Arlette.
Salut Léo, bonjour à toutes et à tous.
La Palestine, Israël, la guerre, les morts, chacun des Hebdos que tu lis avec attention chaque semaine tente à sa façon de nous expliquer l'inexplicable.
Mais c'est vrai. Mais avant, je voudrais préciser que 4 des 5 Hebdos de cette revue de presse ont été réalisés avant le dernier épisode épouvantable mardi dernier du bombardement de l'hôpital dans le centre de Gaza. L'Express est le seul à en parler. Mais enfin, ce sont les raisons techniques qui ont fait ça.
Télérama aborde la question israélo-palestinienne en questionnant Alain Dikoff, sociologue, directeur du Centre de Recherche International, le CERI, à Sciences Po et directeur de recherche au CNRS.
Alors c'est l'invité de la semaine et c'est un expert d'Israël. Il aborde le sujet comme le sociologue qu'il est. Je me suis intéressée aux questions. Les questions et pas les relances, posées par le journaliste Olivier Pascal Mousselard. Ces questions, vous voulez poser peut-être vous-même. Comment mesurer le traumatisme subi par la société israélienne? C'est la première. La confiance en l'armée, pilier de la démocratie israélienne, est-elle ébranlée? La comparaison du scénario de ces attentats avec celui de la guerre du Kippour vous semble-t-elle justifiée? Où est passée l'autorité palestinienne? Parler de crimes de guerre est-il légitime? Le 7 octobre est-il à nouveau 11 septembre, un événement qui fait basculer l'ensemble de la planète dans le monde d'après? En page 10, un article intitulé « L'école encore » rappelle que la communauté éducative, à qui l'on demande sans cesse davantage, se trouve une nouvelle fois visée, endeuillée, sous le choc d'un acte terroriste au nom de l'islam. Vendredi 13 octobre, à Arras, un professeur de français, Dominique Bernard, a été assassiné dans son lycée et un agent de lycée a été hospitalisé en état d'urgence absolue.
Israël, la Palestine et nous, c'est le titre du 1.
Julien Bisson, dans le Zakouski, précise le choix de ce titre. Depuis une dizaine de jours, l'actualité a pris des airs de funeste cortège où chaque dépêche semble vouloir rivaliser dans l'horreur avec la précédente. D'abord avec les massacres perpétrés par les commandos du Hamas, et ensuite à la monstruosité de l'attaque terroriste a succédé la violence de la réplique israélienne, au sol comme dans les airs. Plus de 2000 Palestiniens sont déjà morts à la date du 15 octobre, tombés sous des bombes aveugles. Cette guerre qui se joue en ce moment au Proche-Orient et dont nul ne sait encore jusqu'où elle pourra s'étendre est aussi la nôtre. Parce que son ombre est comme une lumière noire sur nos dissensions, nos fractures politiques, sociales ou religieuses, creusant les fossés existants, exacerbant les haines et réduisant à peau de chagrin le souci de la vérité ou de la complexité. Mais cette guerre est aussi la nôtre, faute d'avoir su l'empêcher, d'avoir su ouvrir les yeux sur l'incendie qui guettait. Dans la rubrique Patrimoine, un extrait du livre de Joseph Kessel, Les fils de l'impossible, qui, en 1970, décrivait déjà les conditions épouvantables de la vie des réfugiés de Gaza. Il écrivait alors « Ce fut de Gaza que les premiers groupes de fédayines partirent pour leurs expéditions meurtrières. » 1970. Robert Solé, dans sa rubrique « Le mot », s'est emparé du mot « enclave ». Ce mot a été appliqué un peu partout dans le monde. Solé énumère tous ces lieux, du Haut-Karabakh à la cité de la Castellane, dans les quartiers nord de Marseille. Mais, précise-t-il, c'est Gaza qui détient le plus grand nombre de citations. Il est impossible de parler de cette enclave palestinienne sans la qualifier de « prison à ciel ouvert ». Le 1 tente de trouver une sorte d'équilibre macabre entre le massacre terroriste des uns et la riposte des autres, qui prend la forme d'une punition collective de tout un peuple, un crime de guerre qui prend des allures considérables. C'est ce que nous dit Sylvain Sipel. Tandis que le dessinateur Le Poisson tente de dresser une chronologie de l'histoire de ce Moyen-Orient de 1799 à nos jours, histoire dans laquelle la France a sa part de responsabilité. Et sur le poster, vous trouverez les cartes de Gaza de la fin du mandat britannique 1946 à nos jours.
Le Canard enchaîné titre « Attaque terroriste en Israël, à Arras et à Bruxelles ». Et Eric Amtaz analyse les mots utilisés par les politiques quand ils commentent les actions terroristes.
Sous le titre de son édito « Un mal des mots », des mots MOTS, il s'applique à repérer les éléments de langage que les hommes politiques de tous bords ont utilisés après ces événements tragiques. Implacables et impitoyables, ils ont été lancés par Macron après la mort de Dominique Bernard, le professeur de français d'Arras. Alors que Darmanin et Attal, sur tous les plateaux télé, derrière tous les micros et sur un ton martial, exhortent à ne pas avoir peur, car le choix est fait de ne pas céder à la terreur. Macron en appelle aussi à l'unité nationale. MTAS constate que les grands mots présidentiels ont eu pour effet d'inciter LR et RN à en rajouter. Et les mots immigration, démission, réforme de la Constitution, référendum volent bas. Pour terminer son édito, MTAS ajoute « Ce qui n'empêche en rien LFI, cette fois par la voix de l'une de ses élus, Danielle Obono, de continuer implacablement, comme Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot, de qualifier le Hamas de mouvement de résistance. Là, dit-il, ce n'est pas impitoyable, c'est juste pitoyable. » En page 2, le canard en remet une couche sur Mélenchon et la NUPES. Le titre « Requiem pour la NUPES ». Et en plein centre du papier, à lire évidemment, un dessin de Mélenchon qui déplore « toute cette énergie à faire moi-même imploser la NUPES ». Et ce sont les autres qui la sabordent ? Mais quelle injustice !
Courrier international sur un dessin de l'Américain Brian Stoffer, titre en couverture « Gaza, une guerre sans loi ».
Dans son édito, Claire Carrard raconte « Cette deuxième Nakba, catastrophe, terme qui désigne l'exode forcé de 700 000 Palestiniens chassés de leur terre en 1948. Elle explique le choix de ce titre. Des voix de plus en plus nombreuses appellent Israël à la retenue. Nous avons choisi de nous en faire l'écho. Cet écho, le courrier l'a trouvé dans Haaretz, le quotidien de gauche israélien, où l'avocat israélien Michael Sfard signe un article courageux. Je cite « Israël ne doit pas ignorer les interdits fixés par les droits de la guerre. Oui, le Hamas s'est rendu coupable d'un crime de guerre abominable et impardonnable le 7 octobre. Et pourtant, écrit-il, le droit de la guerre n'a pas été pensé uniquement pour des situations de parfait sang-froid où il n'y a ni colère justifiée, ni soif compréhensible de vengeance. » Dans The Observer, l'auteur britannique Kenan Malik reprend peu ou prou le même argument. Comment éviter l'escalade qui paraît inexorable ? Alors pour clore le dossier, écrit Claire Carrard, nous avons voulu faire entendre une voix différente, celle d'un officier réserviste israélien dont le New York Times publie une lettre ouverte très forte. « Si je me bats, écrit-il, c'est pour Israël. Les Palestiniens ne sont pas mes ennemis. » Pour finir, nous revenons sur l'émotion immense en France après l'assassinat de Dominique Bernard à Arras. Non seulement le terrorisme islamiste est de retour sur le territoire, mais ce meurtre exacerbe les pires craintes quant à la possible importation du conflit entre le Hamas et Israël en France, s'alarme la presse étrangère. Alors vous trouverez dans leur intégralité les articles évoqués dans l'édito, dans les chroniques « 7 jours dans le monde » en page 6, « Restez unis contre la terreur » et en page 8, « Retour à l'état de choc ». Et à la une, page 12, sur Gaza, une guerre sans loi, 10 pages d'articles de la presse du monde entier.
L'Express tente, lui, de se projeter sur demain.
Oui, mais avant de parler de demain, l'Express raconte hier. L'Express a 70 ans. Éric Scholl, directeur de la rédaction, se souvient. Cette célébration des 70 ans, c'est une ode à l'âge d'or de la presse française. Pour Anne Rosencher, en regardant dans le rétroviseur de l'Express, certaines choses semblent d'un autre temps, mais d'autres ne changent pas. Dans le dossier, les souvenirs des rencontres qui ont émaillé les sommaires de l'Express se succèdent. On y croise Badinter, Sagan et Bardot, mais aussi M. X, Castro et Cohn-Bendit, et évidemment Giscard, Chirac et Mitterrand. Mais revenons à l'actualité. Les titres des éditos nous indiquent en effet que l'Express, plutôt que de raconter une fois de plus ce qui s'est passé, essaie de présumer ce qu'il va advenir, demain, après-demain. Après la frappe sur un hôpital à Gaza, le Moyen-Orient a une étincelle de l'abîme. Ou encore, inquiétant, Le Hamas ne peut gagner une guerre conventionnelle contre Israël. Son seul objectif, que la réplique israélienne à Gaza embrase la région. Pour Stephen Walt, chercheur en relations internationales et professeur à Harvard, sur l'avenir entre Israël et la Palestine, la solution à deux États ne me semble plus possible. La seule solution au conflit israélo-palestinien ne peut être que politique et non militaire. Entre Israël et le Hamas, le Qatar, médiateur controversé mais incontournable, le petit pays du Golfe s'active en coulisses pour négocier la libération des otages israéliens, un moyen pour le royaume proche du Hamas de montrer patte blanche.
Il me semble que tu as, Arlette, très injustement squeezé l'horoscope des balances. Est-ce que Rob Brezny les a oubliés ?
Mais non, c'est moi, je me suis juste embrouillée dans le zodiaque. Pardon, les balances. Donc, cette semaine, c'est pour les balances, les conseils de Brezny. L'œuvre de Shakespeare ne m'émeut guère, dit-il. Si j'admire l'inventivité hardie de sa langue, je ne trouve sa vision du monde ni séduisante ni intéressante. Les personnages de ces pièces ne me parlent pas et les problèmes auxquels ils sont confrontés me paraissent déconnectés de la réalité. Je me sens bien plus proche des personnages et des situations complexes que propose Balzac, dont la vision contrastée et nuancée de la nature humaine me touche vraiment. Ce jugement ne préjuge en rien de la valeur de Shakespeare et n'est qu'un reflet de ma sensibilité personnelle. À ton tour, balance, défends sans réserve ta subjectivité et ta sensibilité propre.